Terminons cette journée avec la chronique de Louise sur les enfants zèbres.
Super, merci Timéo. On se retrouve du coup pour effectivement parler d'un sujet. Ce sont donc les enfants zèbres. Ce sont des enfants qui sont pas comme les autres et qui sont bien souvent moqués à l'école à cause de leurs différences intellectuelles. Tout d'abord, qu'est-ce que les enfants zèbres, me diriez-vous ? Eh bien, c'est tout simplement les enfants HPI. HPI signifie haut potentiel intellectuel. Parmi ces enfants zèbres, certains, en plus d'être HPI, ont souvent une hypersensibilité qui peut être liée ou non. Ce sont également bien souvent des enfants précoces. Cela signifie que le cerveau a une maturité en avance sur l'âge de l'enfant. Bref, je pense que vous l'aurez compris, être un enfant zèbre n'est pas toujours évident. Je dirais même parfois, c'est un défi quotidien que d'être un enfant zèbre. Les enfants zèbres, contrairement à ce que l'on pourrait s'imaginer, ont bien souvent de grandes difficultés face au système scolaire. Pas forcément au niveau des résultats, mais bien souvent dans l'interaction avec les autres jeunes de la classe, voire même de l'établissement. Les enfants zèbres sont les principales victimes de harcèlement scolaire. Le harcèlement scolaire sur les enfants zèbres au collège représente 54%. En primaire, il représente 23% et au lycée, il représente 13%. Les enfants zèbres est un terme qui est bien souvent méconnu des enfants, des jeunes et même des adultes, comme les parents ou encore les enseignants. Bien souvent, on les voit comme des extraterrestres, des enfants pas forcément concentrés, perdus dans leurs pensées. Ce sont souvent des enfants qui ont besoin d'avoir toujours quelque chose à faire en plus de leur travail pour pouvoir bien rester concentrés. Comme par exemple, jouer avec un stylo, dessiner ou encore bouger les pieds ou les mains. Beaucoup d'enfants souffrent de leurs différences qu'ils peuvent considérer pour certains comme un réel handicap. Beaucoup d'enfants sont suivis par des psychologues, 73% jusqu'au collège et 42% jusqu'à la classe de terminale au lycée. Mais en fait, qui a défini le terme des enfants zèbres ? C'est une psychologue, Jeanne Ciotte-Fachin, qui a préféré utiliser ce terme de zèbre il y a une quinzaine d'années pour ne plus stigmatiser ses enfants aux cuisses supérieures aux autres. Il existe un vaste choix de livres sur ce sujet, comme par exemple « Tronche de zèbre » de Vincent Thibaudeau, « Je suis un zèbre et alors » de Catherine Viès-Dufaux ou encore « Je ne suis pas un âne mais un zèbre » de Anne Videm. Je vais maintenant vous lire un témoignage que j'ai pu trouver sur un forum sur internet où les gens échangent justement sur les enfants zèbres et il y a bien souvent des adolescents qui en souffrent. Donc on a un témoignage aujourd'hui d'une dame qui est maintenant dans la vie active. Je me rappelle très bien de mon enfance, même des souvenirs lorsque j'étais très jeune. Entre mes 2 ans et mes 6 ans, enfant, j'étais intéressée et curieuse de tout. Je me posais toujours 15 000 questions et heureusement j'avais des parents très patients. Pourquoi il y a des poulets et pourquoi il y a des hommes ? Comment une cellule a pu créer et un poulet et un homme ? Pourquoi une fourchette s'appelle une fourchette et pas une cuillère ? Ma maman, que j'adore, m'expliquait l'histoire du poulet et pourquoi la terre est ronde. Très tôt, j'ai eu d'énormes facilités à l'école. Et en même temps, je me sentais très seule. Je n'arrivais pas à me lier avec les autres élèves. Mon institutrice, à la petite section, avait déjà dit à mes parents que j'avais des facultés supérieures à la moyenne. J'ai évolué tranquillement mais sûrement jusqu'au CP. Là, le décalage a commencé à se faire sentir. Je parlais tout le temps, j'avais besoin de communiquer avec la maîtresse, avec les autres. Je m'ennuyais parce que je finissais les exercices vite et que j'attendais beaucoup que les autres élèves aient fini. J'ai appris à compter et à lire très vite. J'ai donc sauté une classe et commencé le programme de CE1 sur mes 2 derniers mois de CP. En CE2, je me sentais plus à l'aise. J'étais avec des enfants plus grands, j'ai enfin eu de vrais copains. En CP, ma seule copine était en CM2 et mes parents trouvaient ça un peu bizarre. Heureusement, en CE2, j'ai fait partie d'un petit groupe, dont certains avec qui je suis encore amie aujourd'hui. On se voit moins, mais on est toujours en contact. Au CE2, mon cerveau fonctionnait toujours à plein régime. Je m'en sortais très bien, donc rebelote, on souhaite me faire sauter une autre classe. En tout cas, la maîtresse l'évoque. Comme à peu près toutes les précédentes, cela, je ne le savais pas à l'époque, c'est en parlant avec mon papa que je l'ai su. Mes parents hésitent. Une classe, c'est bien. 2, le décalage d'âge, de maturité, etc. Cela pourrait devenir compliqué. Je reste donc avec mon groupe d'amis et passe en CM1. J'ai toujours aimé l'école. Je n'ai d'ailleurs jamais arrêté de faire des études, même encore aujourd'hui. À 30 ans, je continue toujours d'apprendre, j'aime toujours autant les études, et en reconversion, je suis devenue prof dans l'enseignement supérieur. Finalement, je n'ai jamais vraiment quitté l'école. Je crois que certains surdoués ont peur de l'école. Je pense que ce n'est pas de l'école qu'on a peur, mais on est au potentiel, mais plutôt du jugement des autres, du décalage avec ses camarades. Mais on aime apprendre et on a la soif d'apprendre. C'est d'ailleurs quand on n'apprend plus, on va pas assez vite à notre goût qu'on s'ennuie. Le matin, à la primaire, ma maman me posait plutôt à l'école avant son travail. J'étais à la garderie du matin et j'arrivais souvent dans les trois premiers enfants à l'étude. Je passais tous mes matins, tous sans exception, à jouer aux dames avec la dame qui nous gardait, qui devait avoir 50 ans à l'époque. J'ai toujours été plus à l'aise avec les gens plus vieux. Même très jeune, quand j'allais chez mes copains, je finissais toujours par plus discuter avec leurs parents, qui d'ailleurs devaient me trouver très bizarre entre 7 et 11 ans. Je pense que pour mes parents, j'étais normale. En fait, ils ont eux-mêmes un parcours qui fait qu'ils ne se sont jamais vraiment posé la question de « est-ce qu'elle est surdouée ?» Mon père est très intelligent et a un QI plus élevé que la moyenne. Il a sauté une classe quand il était petit. Quant à ma mère, elle est très sensible et elle a une très grande finesse d'esprit. Une culture incroyable et elle s'intéresse à tout. Ma grande sœur est aussi vive d'esprit que moi. On se ressemble d'ailleurs sur beaucoup de choses et on s'oppose dans beaucoup d'autres. Quand on a un projet, on est à fond et on est capable de passer du coq à l'âne en très peu de temps. Je crois qu'avec leur backroom et ma grande sœur, qui avait à l'époque le même profil que moi, ils se sont dit que tout allait bien et que c'était plutôt une chance d'avoir des facilités à l'école, mais sans se poser plus de questions. Bon, derrière, j'ai eu une scolarité un peu plus mitigée, tout simplement parce que j'étais devenue un peu flemme et que plus je vieillissais, moins certaines choses m'intéressaient. Je dirais même que cela m'ennuyait carrément. Pas le fond, car je suis toujours aussi curieuse, mais la forme. Je pense que je suis une surdouée à laquelle le système scolaire de l'époque, qui est malheureusement toujours d'actualité, ne convenait pas. J'aurais pu être détectée dès la maternelle, car en petite section, ma maîtresse avait parlé de la douance à mes parents. Puis ensuite, on en a regardé à la primaire, mais ça ne s'est pas passé comme cela, et c'est pas grave. J'ai fini par être détectée et par comprendre, et aujourd'hui, je me dis que d'une, ça devrait se passer comme ça, et qu'en plus, ça m'a rendue plus forte et encore plus alerte sur plein de points de vue. Maintenant, j'ai un petit mot à faire passer. Étant une enfant zèbre moi-même, je souhaiterais remercier ma maman et toutes les personnes proches de moi parce que le quotidien est parfois très compliqué. Notre quotidien est rempli de tocs et de difficultés, difficiles à surmonter tout seul. C'est pour cela qu'il est important d'être bien entouré. Je pense que les moyens ne sont pas assez développés. Les jeunes devraient être davantage accompagnés durant leur scolarité par du personnel formé à ces particularités parce que ces enfants sont en souffrance. Et je pense que ce témoignage peut être un cri d'alerte pour faciliter l'accès au détectage comme dans le témoignage de la dame. Voilà. Merci de m'avoir écoutée.